Nous sommes à nouveau donc dans l'épître de Paul aux Colossiens. Ce qui est le thème principal, rappelez-vous, être enraciné en Christ. Notre objectif, c'est de être comme ces grands arbres, peut mesurer 30-40 mètres, hein, et malgré les tempêtes, malgré les vents, malgré tout, ils tiennent debout. Parce qu'il y a une racine qui va au profond du sol pour assurer qu'il est ancré. Peu importe les vents, les tempêtes, ils tiennent debout. Et c'est un peu la métaphore pour nous aussi. C'est important que nous soyons fermes, établis, stables en Christ. Et la question c'est, comment être enraciné en Christ? Nous l'avons vu la semaine dernière, par l'Évangile. Dans cet épître. Et aujourd'hui, nous allons encore poser la même question et voir ce que enseigne la parole de Dieu. Comment être enraciné en Christ? Par la prière. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et à ce sujet, je vous invite à lire le verset 9 à 11 du chapitre 1 de l'Épître aux Colossiens. C'est pour cela, verset 9, que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Prière. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Le verset 9 à 11, dans les manuscrits originaux en grec, hein, ce n'est qu'une seule phrase. Une seule phrase. En quoi consiste la prière de Paul en faveur des Colossiens? Je vois deux choses. Au verset 9, il prie pour eux d'être remplis la connaissance. On va voir aujourd'hui tout simplement, cette prière en vue de la connaissance. Il précise de quelle connaissance. Et dimanche prochain, nous allons voir le verset 10 à 11. Il prie en faveur des Colossiens pour la mise en pratique de ce qu'ils connaissent, de la volonté de Dieu. Donc la connaissance, la mise en pratique. Ce matin, j'aimerais juste à travers ce passage, regarder avec vous quelques aspects de cette connaissance. D'abord, je vois que cette connaissance est le moteur pour la croissance spirituelle. Vous voyez le verset 10, hein, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant, par quoi? La connaissance de Dieu. Cette connaissance est le moteur pour la croissance spirituelle. Et Paul ne désire pas n'importe quelle connaissance pour les Colossiens, mais elle précise même la connaissance de Dieu. Au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, il dit bien pour marcher d'une manière digne du Seigneur, au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu et que nous travaillons pour lui, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, nous apprenons à le connaître de mieux en mieux. Bien sûr, nous apprenons à mieux connaître Dieu quand nous prions dans notre chambre, n'est-ce pas? Et quand nous méditons sa parole dans le culte personnel. Mais ce passage nous dit que nous apprenons également à le connaître quand nous marchons avec lui dans notre vie quotidienne et quand nous travaillons avec lui. Par exemple, en gagnant des âmes pour le Seigneur, quand nous aidons nos frères et sœurs. Donc cette connaissance que Dieu veut pour nous, ce n'est jamais une connaissance seulement théorique, ni réservée pour quelques initiés, comme les gnostiques qui essaient d'infiltrer l'église de Colosse et enseigner de telles choses pour les chrétiens à cette époque. Non, c'est une connaissance qui se dégage d'une communion avec Dieu. Et cette connaissance, elle est pratique. J'aimerais juste, à sujet de la connaissance, hein, vous dire aussi que dans la Bible, hein, on voit que la connaissance impacte notre vie parce qu'elle peut changer notre perspective dans la vie. Regardez en Philippiens chapitre 3 où Paul parle, hein, de comment la connaissance de Jésus-Christ qui a chamboulé toute sa vie et ses perspectives, ses regards sur les choses. Philippiens 3, verset 8, verset 10. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. La connaissance, nous avons vu, elle est pratique, mais la connaissance change aussi notre manière de voir les choses, notre manière de voir la vie. Vous voyez, ici, Paul est en train de dire les choses qui avaient de l'importance, les choses qui étaient ce qui le motive quand il se lève, avant de connaître Christ, ne le sont plus maintenant, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Tout est chamboulé. Les valeurs que l'apôtre Paul attachait d'importance, c'est comme de la boue. Il dit, je connaîtrai Christ, la communion de ses souffrances. Non pas pour compléter l'œuvre de Christ à la croix, pour son salut, qui veut souffrir, et qu'il accepte de souffrir, mais il accepte de souffrir pour Christ, pour tout ce que Christ a souffert pour lui, et c'est tout à fait normal. Ainsi, si Dieu permet dans sa vie la maladie, et pour nous, par exemple l'échec, le handicap, les pertes, la souffrance, notre regard sur ces choses change. Ce n'est pas un obstacle. Mais au contraire, on voit maintenant autrement ces choses qui ont la place dans notre vie quand Dieu le permet. Ça, c'est le changement qu'apporte une connaissance de Dieu. C'est vrai, on fait tout de notre mieux avec les progrès de la médecine d'essayer de guérir. C'est normal. C'est une bonne chose à faire. Mais avant tout, de chercher que ces choses ont sa vraie raison d'être dans ma vie, parce que c'est pour mon bien. C'est ça le changement qu'apporte la connaissance, hein, de Dieu. C'est ce que Paul est en train de dire. Ils ont vraiment leur vraie raison d'être, parce que ce que Dieu vise à travers la maladie, l'échec, la souffrance, les pertes, qu'est-ce qu'il vise? C'est ma sanctification pour mon bien. C'est ça qui compte. Avant tout pour nous en tant que chrétiens. Et vous savez, cette connaissance va plus loin que d'accepter la place que les souffrances, les pertes et toutes ces choses ont dans notre vie. Je vois dans l'apôtre Paul, cette connaissance lui permet même d'engager sa vie, même si ça va lui coûter. Mettre en jeu sa vie, son futur. N'est-ce pas? Il dit, même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que la vie de foi des chrétiens de Philippe est comme une offrande qu'il faut offrir à Dieu. Mais s'il manque quelque chose pour que cette offrande soit agréable à Dieu, Paul est prêt à ce que cette vie soit le plus la libation. C'est l'huile qu'on met autour du sacrifice ou bien le vin qu'on met autour ou sur le sacrifice, en dérange. Il dit, s'il le faut pour le bien de ces chrétiens de Philippe, je suis prêt à sacrifier ma vie comme une libation, comme une offrande offerte quand on fait le sacrifice. Vous voyez, la connaissance permet non pas seulement d'accepter, c'est une très bonne chose, mais même de prendre des risques pour le Seigneur. Par ailleurs, la parole de Dieu parle que Paul disait, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. C'est incroyable. Ce qu'apporte une connaissance personnelle de Dieu. Mais revenons à l'Épître aux Colossiens où l'apôtre précise la connaissance de sa volonté. Pas seulement de la personne de Dieu, c'est très important et c'est infiniment grand, mais Paul veut aller plus loin, cette connaissance de sa volonté. Ce qui nous amène au deuxième aspect de cette connaissance. Cette connaissance de sa volonté doit nous remplir. Intéressant, toujours, comme j'ai dit, Dieu parle à travers les vocabulaires, à travers les mots, à travers les verbes, les temps des verbes. L'inspiration verbale. Ici, le verbe traduit par rempli au verset 9, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, signifie être contrôlé par. Quand on dit rempli, c'est être contrôlé par ou être dominé par. Retenez ça. Exemple, nous voyons que quelqu'un est rempli de colère, ça veut dire que la colère le domine. Quand on dit rempli de colère, c'est la colère qui le domine et qui le contrôle. Et il ne se contrôle plus. Éphésiens 5, 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il va faire quelque chose ici, en parlant du négatif, ne pas être ivre du vin, parce que si on est ivre du vin, c'est qu'on est sous le contrôle de l'alcool. Mais Paul veut ressortir cette idée d'être contrôlé par l'alcool pour inciter les croyants à être contrôlés par quelque chose qui est très positif, contrôlé par l'Esprit de Dieu. Être rempli de l'Esprit de Dieu. Aussi, Paul demande dans sa prière que ces chrétiens soient dominés par la pleine connaissance de la volonté de Dieu. Oui, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que connaître la volonté de Dieu, je dirais, la plus grande question de la vie. Il est important de connaître son plan à mon égard, le plan de Dieu pour ma vie. Il est important de savoir que désire-t-il de moi. Et je fais une petite parenthèse, c'est très important. Que on peut mettre deux catégories de choses pour traiter la question de la volonté de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté préceptive. Ne soyez pas trop bloqué par le mot volonté préceptive. Préceptive, précepte, précepte, commandement. Ça veut dire que la volonté de Dieu est clarifiée et dit dans la parole de Dieu ce qu'il nous demande. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous montrer quelques volontés préceptives de Dieu, c'est-à-dire les préceptes, les commandements de Dieu à ses enfants. Ce qu'il attend de nous. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de la débauche, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5, sans vous livrer à une convoitise spontanée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il y a une volonté très claire que Dieu demande à ses enfants. Ici, nous voyons deux choses. D'abord, la volonté de Dieu est claire sur ce fait que nous devrions nous maintenir purs dans le domaine sexuel, moral. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Je vois au verset 6, la volonté de Dieu aussi claire dans le domaine des affaires. Il exige l'honnêteté, l'intégrité dans les affaires, au travail. Payer ses impôts. Faire ce qui est juste et correct. Je vois aussi une volonté de Dieu préceptive, claire dans sa parole. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons parlé dans les séries de messages que ce qui caractérise les derniers jours, c'est que les hommes sont ingrats. N'est-ce pas? Et l'antidote à cela, Paul le donne ici, c'est rendre grâce en toutes choses. pas seulement que les bonnes choses, mais aussi même à nos yeux, si c'est des mauvaises choses, comme nous venons de le voir, la connaissance change notre façon de voir les choses. Rendons grâce en toutes choses, bonnes ou mauvaises. Regardez 1 Pierre 2, versets 13 à 15. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Nous avons parlé aussi des caractéristiques des derniers jours. Les hommes vont rejeter tout ce qui est bien, les gens de bien. Et oui, un des biens que Dieu nous donne, c'est de mettre au-dessus de nous des autorités pour nous protéger et protéger notre voisin de cet appétit de volonté de puissance en nous qui veut écraser l'autre. Merci Seigneur qui a l'autorité au-dessus de nous, qui me protège par cet appétit de l'autre qui risque et qui veut me détruire. Et inversement, ce que je peux être nuisible pour l'autre aussi. L'autorité. Il est bafoué aujourd'hui, que ce soit nos policiers, nos gendarmes, que ce soit les enseignants, que ce soit les autres qui représentent l'autorité. Ici, c'est un bel exemple qui est important pour nous de nous soumettre aux autorités. Mais la Bible parle plus que nous soumettre aux autorités, de prier pour les autorités qui nous gouvernent. Vous voyez, ça c'est la volonté de Dieu, clair. Encore, une volonté préceptive, ce que Dieu mit exactement clair, affiché, et ce qu'il attend de nous. 1 Pierre 3, 17 et 1 Pierre 4, verset 19. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Verset 4, 19. Ainsi que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Oui, dans le milieu de travail, à l'école, n'importe où Dieu nous place, ça peut arriver que Dieu permette que nous souffrions d'une manière injuste. Vous voyez bien, en faisant le bien, et vous souffrez en faisant le bien. C'est d'une manière injuste. Ça arrive, mais la volonté de Dieu est claire. Ne te venge pas, ne rends pas le mal pour le mal, mais continue à faire le bien. Jésus-Christ a démontré cela quand il était sur la croix. Injurié, il ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait pas point de menace. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous les croyants. Je vais maintenant parler de ce qu'on appelle la volonté spécifique. Nous venons de voir quelques aspects de la volonté préceptive, ce que Dieu dit clairement dans la parole que nous devrions mettre en pratique. Maintenant, on peut voir aussi une autre catégorie quand on parle de la volonté de Dieu, ce qu'on appelle la volonté de Dieu spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement pour une situation particulière de ma vie. Par exemple, cette question que je peux poser, quel travail dois-je faire? Je parle de la volonté spécifique. À quel endroit vais-je m'installer pour le travail? À qui me marierai-je? Où vais-je habiter? Toutes ces questions sont résumées dans ce qu'on appelle la volonté spécifique, ce qui me touche tout particulièrement. Et là, dans la Bible, vous ne voyez pas à dire que vous devrez vous marier à telle personne, vous ne voyez pas que vous devrez habiter à tel endroit pour, etc., etc., etc. Mais il y a des principes, et c'est ce que je veux vous montrer tout simplement, hein, les principes que Dieu nous laisse dans sa parole, concernant sa volonté spécifique pour notre vie personnelle. J'aimerais juste citer Jacques, chapitre 4, versets 13 à 15, où quelqu'un ici a un projet pour le futur. Ça rentre bien dans la volonté spécifique. Qu'est-ce que dit Jacques? Jacques 4, 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Juste quelques principes à tirer dans ce passage. Nous apprenons, sur ce que Jacques dit ici, que tous les événements de notre vie, nos projets futurs, sont sous la volonté de Dieu, doivent être sous la volonté de Dieu. Nous apprenons ici que nous n'avons aucun contrôle sur l'avenir. Ce n'est pas entre nos mains que nous pouvons manipuler comme nous voulons et comme bon nous semble. Vous êtes qu'une vapeur qui disparaît. Vous n'avez aucune maîtrise ni aucun contrôle sur l'avenir. Il faut en être conscient. Nous apprenons ici que Dieu n'est pas contre le fait qu'on a des projets. Mais nous devons accepter que la réussite du projet dépend du bon vouloir de Dieu. Ça, c'est le principe que Dieu donne. Ça veut dire quoi? C'est lui le patron. S'il a dit non, ben, parce que je l'accepte très avec joie, parce qu'il est sage que moi. Il n'est pas myope comme moi qui voit que le bout, que juste tout près là. Mais il voit très, très loin d'avance. Et je peux me fier s'il me dit non. Ok, j'accepte. Je ne le conteste pas. Je lui fais totale confiance et je lui remercie. Ça, c'est le principe. Oui, parce que l'erreur, c'est que la vie chrétienne n'est pas faire entrer Dieu dans mes plans, dans mes projets, dans mes pensées, dans mon service, dans ma vie. La volonté de Dieu, et pour la vie chrétienne, ce n'est pas de faire entrer Dieu dans nos plans. Mais c'est le contraire. Entrer dans son plan pour ma vie. Entrer dans ses projets pour ma vie. Chercher à lui être agréable. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que mon unique désir est de te plaire. Que ce soit pour mon travail, que ce soit pour le futur mari ou épouse, que ce soit où je veux être. Mon seul désir, c'est de te plaire. Mais qu'est-ce qui te plaît, Seigneur? Plaire à Dieu, c'est se conformer à sa volonté préceptive, ce qui est déjà clair, noir sur blanc dans sa parole. Et obéir. Vous savez, et je les répète, c'est important pour connaître la volonté spécifique de Dieu qu'elle doit toujours être en accord avec ce qu'il a déjà révélé dans sa parole. C'est clair. Ce qu'il a déjà donné, clair. Hein? Mes choix pour la volonté de Dieu pour ma vie personnelle doit être en accord avec ce qu'il a déjà révélé. Quelques points que j'ai rappelés ici. Et deuxième chose, plus nous connaissons la volonté préceptive de Dieu, plus il nous sera facile de découvrir sa volonté spécifique dans notre vie quotidienne. C'est ça le principe. Il y a des jeunes ici qui ont l'avenir devant eux. Tenez compte de ces choses. La volonté de Dieu, c'est que vous devriez le glorifier. Est-ce que ce travail, Seigneur, me permet de te glorifier? Je me rappelle encore d'un jeune qui était dans un bon travail, bien rémunéré. Il a dit, ça ne va pas. Ça ne me permet pas de glorifier Dieu. Parce que mon patron me dit, tu dois mentir pour gagner plus de clients. Je ne peux pas glorifier Dieu. Il a dit gentiment, monsieur, je suis obligé d'arrêter. Parce que je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Ça, c'est l'exemple. Comment mes choix de vie, ils doivent être en accord avec ce que Dieu demande déjà et moi. Vous voyez, ce n'est pas difficile. Si un travail ne me permet pas de servir le Seigneur dans une assemblée locale, je refuserai de le prendre. Même si ça, c'est très juteux au niveau de rémunération. Parce que ce travail va m'épuiser, me détruire. Même si je gagne plus d'argent, je ne vois plus mes frères et sœurs. Je ne peux plus aller au culte. Je ne peux. Vous voyez, c'est lié les choses. C'est très clair. Il y a des choses, si ça nuise à ma vie de relation pour glorifier Dieu et pour mon engagement dans une assemblée locale, je ne joue pas le feu. Je ne joue pas ce jeu-là. Je compte sur Dieu qui sache qu'il pourvoira autre chose, même si le salaire est mirobolant. Cette connaissance, nous allons voir un dernier point, est caractérisée par la sagesse et le discernement. Pourquoi ? Parce que la connaissance doit être mise en pratique au quotidien. Nous avons parlé tout à l'heure. Et je vais parler encore d'une manière générale maintenant. Parlons de la connaissance. Pourquoi la connaissance, d'une manière générale, a besoin de sagesse et intelligence ? Parce que la connaissance sans sagesse et intelligence est dangereuse, mes amis. La connaissance, je parle de manière générale, sans sagesse et sans intelligence est dangereuse. Juste trois exemples concrets pour vous montrer qu'elle est dangereuse. Vous savez, on a découvert la fission nucléaire. À l'école, vous avez appris ça. Et merci Seigneur, regardez autour de vous là. La lumière. En France, on a ce qu'on appelle les centrales nucléaires. Et vous savez comment ils fonctionnent ? Ils fonctionnent avec des combustibles faits avec de l'uranium. Et le fait qu'on a découvert ce qu'on appelle la fission nucléaire, qu'en cassant les noyaux des atomes, on libère de l'énergie. Et on transforme cette énergie. Et l'exemple, le chauffage. Eh bien, comment ce matin ? La lumière. C'est une bonne chose, la connaissance, les faits scientifiques, waouh, la fission nous permet de nous chauffer, de mettre de la lumière. Mais cette connaissance est dangereuse sans intelligence et sans sagesse. En 1945, la fission nucléaire a été utilisée pour la première fois en fabriquant la bombe atomique. On l'a fait tomber au Japon sur Nagasaki et Hiroshima. Vous voyez ? Ça donne de la lumière, c'est magnifique. Mais sans intelligence, sans discernement, où est-ce qu'on arrive ? La bombe atomique. Deuxième exemple. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Peut-être vous n'êtes pas au courant, mais même beaucoup dans nos vies quotidiennes, nos voitures sont dirigées commandées avec de l'intelligence artificielle. Et vous savez, j'ai trouvé un article magnifique. C'est dans France 24, au mois de novembre 2023. Des dirigeants des grands pays commencent à se poser des questions sur la maîtrise de l'intelligence artificielle. Les dangers qu'ils représentent pour la société mondiale. Juste un exemple, vous pouvez le voir dans un article, je vous laisse tout à l'heure le lire. Vous avez entendu parler de ChatGPT. Il dit qu'on peut maintenant, donc, avec l'intelligence artificielle, générer du texte, des voix, des images. Donc, l'intelligence artificielle capable de produire des contenus et qui sont de plus en plus difficiles à distinguer de ceux produits par l'humain. Ces productions peuvent être utilisées à mauvais escient pour tromper les utilisateurs, notamment en créant de fausses vidéos ou témoignages qui semblent authentiques. Vous voulez nuire à quelqu'un ? Et je cite un footballeur, je cite un grand de ce monde, à cause d'une désinformation, l'intelligence artificielle, vous pouvez prendre des photos, des vidéos, vous faites un app et vous pouvez dire n'importe quoi dessus. Intelligence artificielle, sans intelligence, sans discernement, Encore, sur ce même article, il parle hein, l'arrivée du robot conversationnel ChatGPT dans la vie des millions d'individus à l'automne 2022 a suscité de nombreuses craintes quant à la transformation du monde du travail et à son impact sur l'emploi. En moyen terme, les experts redoutent que l'intelligence artificielle permette de supprimer de nombreux postes, comme le personnel administratif, les avocats, les médecins, les journalistes, les enseignants. Je m'arrête là. C'est juste pour illustrer une connaissance sans intelligence, sans discernement, c'est un grand risque, dangereux. Et je veux revenir à la Bible. Une connaissance sans intelligence, sans discernement, est très dangereuse. 1 Corinthiens chapitre 8, je vous laisse lire chez vous. Dans ce passage, les chrétiens ont de la connaissance. Ils connaissent leur liberté en Christ. Et ce qui se passe dans ce passage, c'est que cette connaissance, c'est certain, leur rend orgueilleux. Et le danger de cette connaissance sans intelligence et sans discernement, c'est qu'il peut nuire à mes relations avec mes frères et sœurs. On parle des viandes sacrifiées aux idoles. Oui, Paul dit, les viandes sacrifiées aux idoles, ça ne touche en rien ma relation avec Dieu. C'est une connaissance. C'est ma liberté en fait. Mais cette liberté, sans discernement, sans intelligence, peut être un frein et peut être même me rendre un pierre d'achoppement pour les autres. Lisez le passage. Donc vous voyez combien la connaissance a besoin d'intelligence et de discernement. C'est pour ça que Paul prie pour ça. Revenons maintenant à Colossiens pour terminer. Nous demandons, verset 9, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il est précisé que la sagesse et l'intelligence sont de nature spirituelle, c'est-à-dire données par l'Esprit de Dieu. Elles ont leur source en Dieu et non en l'homme, n'est-ce pas? Oui, dans la vie chrétienne, la connaissance et l'obéissance vont de pair. Il n'y a aucune séparation entre ce qu'on apprend et ce qu'on vit. Paul prie et veut que les chrétiens de Colosse aient une pleine sagesse. Non pas qu'ils devaient tout connaître, ça ne veut pas dire ça, mais qu'ils aient toute la sagesse nécessaire pour prendre des décisions et vivre comme Dieu le veut. C'est génial l'intelligence artificielle. C'est génial la fission nucléaire. Mais sans discernement, sans la sagesse, où doit s'arrêter l'application? Dangereuse. Pareil pour la vie chrétienne. Votre liberté, c'est une chose d'être libre en Christ. De savoir que ma relation avec Dieu est une viande. Qu'est-ce que c'est? Mais si ça crée un pierre d'achoppement pour l'autre, je risque de perdre mon frère. C'est exactement ce qui est écrit quelque part dans ce passage. Vous voyez? On a besoin de toute la sagesse nécessaire pour prendre des décisions et vivre comme Dieu le veut. Une vraie sagesse spirituelle hein, doit influencer la vie de tous les jours. La sagesse doit s'allier à l'intelligence pratique. J'aime beaucoup terminer avec une histoire. Quand Dieu a dit le désir habiter au milieu de son peuple, Dieu a donné le commandement qu'il faut construire le tabernacle. Et pour le construire, Dieu a donné les plans, Dieu a donné tous les détails. Et Dieu a même qualifié les personnes qui doivent faire le travail au moindre détail. Exode 31, versets 2, 3 et 4 à 5. C'est Dieu qui parle. « Sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse d'intelligence, c'est notre sujet, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. J'ai les rendu capables de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, et de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Juste une parenthèse, nos étudiants, nos lycéens, nos collégiens, nos enfants dans l'école primaire, vous voyez, mes études, l'effort que je fournis, il est en vain. Et je ne suis pas si efficace de cela si je ne suis pas rempli de l'esprit de Dieu. Vous voyez les connexions? Parfois, on fait une séparation entre la vie spirituelle et la vie de tous les jours. Non! Dans mes études, regardez, Dieu peut rendre capable plus d'efficacité que vous pouvez produire vous-même si vous êtes rempli de l'esprit de Dieu quand vous prenez les cahiers et vous étudiez. Ce n'est pas le mur qui sépare les deux se vivent ensemble. Je peux demander à être rempli de l'esprit de Dieu pour quoi que ce soit que je fais dans ma vie. Et comme c'est Dieu qui donne les capacités, c'est incroyable. La mémoire pour retenir, etc. Que donner? Comme il a qualifié cet homme, ces deux hommes, pour faire des tabernacles. Aujourd'hui, on ne travaille plus l'or et l'argent et les reins pour construire les tabernacles. Mais aujourd'hui, Dieu demande des hommes et des femmes courageux dans l'église locale. Il demande à ce que nous soyons toujours actifs, même peut-être dans l'ombre. Et il y en a ceux qui le font dans cette assemblée, qui reconfortent les âmes blessées, qui prennent du temps à être à leur écoute, à ceux qui sont découragés. Ah oui, il le faut. Oui, il y a ceux qui fidèlement témoignent du Seigneur auprès de leurs collègues, dans le lieu de travail, auprès des voisinages. Il y en a dans cette assemblée ceux qui font des visites dans les prisons. Sans oublier les parents qui patiemment instruisent leurs enfants à prier, à lire la Bible à la maison. Ceux qui, de l'autre côté, notre sœur, enseigne les enfants à l'école de dimanche. Ceux qui se lèvent tôt pour préparer la salle pour le culte dimanche matin. Vous êtes au chaud. Il y a quelqu'un qui est venu pour allumer le chauffage, mettre les chaises et tout, pour que nous soyons en bonne condition pour pouvoir louer et adorer le Seigneur. Ceux qui président le culte, toute une préparation dans la prière, préparation dans la recherche, à ce que la parole de Dieu nous nourrisse. Elle est vivante, mais à nous de la rendre encore plus vivante, pratique. Ceux qui, malgré de longues journées de travail, présents aux réunions de prière. Et la liste est longue. Ceux qui nous accompagnent pendant le culte d'adoration par le piano, le violoncelle. Mes frères et sœurs, continuez. Restez fidèles dans l'œuvre que Dieu vous a appelé à accomplir par sa grâce. Bessalel et Oliab étaient qualifiés pour construire le tabernacle. Dieu construit son église, il le bâtit, a besoin de tous ses ouvriers. Restons fidèles. Dieu dit par l'apôtre Paul, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Jamais nous contenter, waouh, ça marche, j'ai fait quand même, Dieu, oh super. Non, de mieux en mieux, toujours chercher l'excellence pour le Seigneur. La motivation, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce que nous faisons pour le Seigneur ne sera jamais vain. Une futilité. Jésus parlait, même un verre d'eau que vous donnez à quelqu'un, c'est important. Vous voulez dire que j'aime Dieu, j'aime Jésus, eh bien, Jésus dit, quand j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Quand j'étais malade, vous êtes venu me rendre visite. Quand ceci, quand cela, ce que vous faites à ce petit-là, vous l'avez fait à moi. Notre service pour le Seigneur passe dans nos services envers les autres. Quand Paul a persécuté l'Église, Jésus était touché. Quand Paul l'a vu sur le chemin de Damas, Jésus lui parlait personnellement. Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et pourtant, il persécutait les chrétiens. Mais c'est Jésus qui le touche. Ce que vous faites pour les autres, c'est à Jésus que vous le faites. Et ce ne sera jamais futile. Oui, mes amis, combien nous devrions faire notre cette prière de Paul pour les Colossiens? Je me l'approprie. J'ai besoin de sagesse chaque jour. Oui, la connaissance importante, mais sans sagesse, sans intelligence, dangereuse. Prions pour que Dieu nous accorde la sagesse et l'intelligence spirituelle dans tout ce que nous faisons, petites choses ou grandes choses de notre vie. N'ayant jamais l'esprit de séparer ce que je fais tous les jours et ce que ça n'a pas besoin, ou j'ai pas besoin d'être rempli de l'esprit de Dieu. Erreur. Ça va ensemble. C'est nous qui le séparons dans nos têtes, mais ça va ensemble. Pour être productif, pour être efficace pour le Seigneur, demandons-lui la sagesse, l'intelligence, et être rempli de l'Esprit de Dieu. Menez-vous une vie digne de l'Éternel en cherchant à lui plaire. C'est ce que pense ce passage. Portez-vous du fruit, grandissez-vous dans la connaissance de Dieu et de sa volonté. On vient d'en parler. Connaissez-vous sa puissance dans votre vie afin d'endurer les épreuves avec joie? Oui, nous avons toujours besoin de prier cette prière les uns pour les autres, tout comme l'apôtre Paul priait pour les Colossiens. Et c'est ainsi que nous devrions, comme un arbre, debout, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, il tient debout parce que sa racine est ancrée dans la parole de Dieu. Il est ancré dans la communion avec Dieu dans la prière. Comment? Être ancré dans la vie chrétienne? Grâce